c'est bon.
Normalement.
Normalement, ça marche.
Ça doit exploser à un certain moment.
Oui. Alors, on va présupposer que ça marche. Soyez les bienvenus.
Merci.
Vous avez peut-être été intrigué par un titre comme ça. On va juste réfléchir à une dimension que je crois centrale par rapport à la notion de disciple. Nous sommes les disciples d'un maître crucifié et ressuscité. Nous ne sommes pas les disciples de Batman. Nous ne sommes pas les disciples d'un magicien ou de n'importe quel roi. Nous sommes les disciples de ce Jésus, et ça vaut la peine de réfléchir à comment nous pensons les domaines que cela touche. Puis-je vous demander à vous, quels sont les domaines que touche la vie de disciple? Les domaines que touche la vie de disciple. Vous pouvez m'aider? J'ai une liste d'une trentaine de mots, peut-être que certains collent avec les vôtres. À quoi on reconnaît un disciple?
Le pardon.
Il reçoit le pardon ou il donne le pardon?
Les deux. Mais...
Les deux obligatoirement ou un surtout?
Les deux.
Et si Jésus était sérieux quand il dit « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aux autres », s'il était vraiment sérieux et qu'on se trompe de penser que l'un suffit, et si on s'illusionnait en prenant qu'une partie de l'Évangile, c'est quand même un risque grave, n'est-ce pas? Le pardon, et quoi encore?
La soumission.
La soumission à l'islam. À qui?
À Christ.
À Christ. Excuse-moi, c'est non, juste pour aller vite. La soumission à l'Esprit de Dieu. Vous vous souvenez la petite girouette qu'on a vue là sur un fil? Si le vent détermine où ça souffle, est-ce que c'est au Christ ou c'est à l'Esprit? C'est une question piège. Et si c'était indissociable? Et si l'Esprit souffle pas n'importe quoi, n'importe comment? Et si c'était même plus l'Esprit de Dieu, si je crois que l'inspiration vient alors que c'est déconnecté par rapport à Jésus? Ce serait grave qu'on se trompe, n'est-ce pas? Quels sont les domaines touchés par le disciple, là, la vie de disciple? On peut continuer?
L'amour.
C'est quoi, ça? C'est quelque chose en faveur du prochain? Ou c'est une émotion? Si c'est quelque chose en faveur du prochain, et pas qu'une émotion, mais aussi une émotion... Mais pas nécessairement une émotion. Si c'est quelque chose en faveur du prochain, qu'est-ce que c'est en faveur du prochain?
Un sentiment.
C'est une attitude.
Une attitude en faveur du prochain.
Dans laquelle il y a du respect.
Bienveillance.
De la bienveillance, de la considération.
Vérité.
De la vérité.
Compassion.
Des actes d'amour.
Vous voyez, on est en train de dire quel domaine ça touche quand on est disciple de ce Jésus-là. Hein? D'accord?
La dignité.
Donner de la dignité à autrui inconditionnellement, indépendamment du fait qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas. Mes amis, on va être apprentis très longtemps. Parce qu'on n'est pas formaté pour ça. Et si je doute un seul instant, que c'est ce que Dieu veut, je ne le ferai pas. Par conséquent, c'est très important que je ne doute pas et que ça se vérifie. Vous saisissez? Parce qu'on est formaté vraiment pour d'autres choses. On pourrait continuer pour gagner un peu de temps. Je voudrais surtout insister que nous sommes les disciples d'un maître crucifié et ressuscité qui nous donne son esprit. Et ce n'est pas tellement nous qui avons besoin d'être libérés, que de l'amour qui doit être libéré en nous. Je prends d'autres, même la notion de sincérité. Est-ce qu'un disciple est sincère? Est-ce que c'est le but du discipulat d'être sincère?
Pas le premier but, non.
C'est quand que ça commence d'être sincère? Ou c'est quand ça termine d'être sincère? Des fois, j'ai l'impression que la transparence, ça consiste surtout à avouer qu'on n'en a pas. Et je ne sais pas quand on a fini d'être transparent. Vous savez, vous, le remède? Donc, oui, je ne suis pas sûr que l'absence de transparence, c'est de l'hypocrisie. Hein, on est d'accord, c'est une maladie. Mais de croire que la transparence est la vertu messianique, je ne suis pas tout à fait sûr. L'intégrité, oui, dedans, dehors, le mieux possible. Il y a beaucoup de gens qui pensent au mot disciple parce qu'il y a Matthieu 28 qui dit « Faites des disciples de toutes les nations, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc on a disciple et on pense « Disciple, c'est ce qui se multiplie. » Ou alors on dit « Disciple, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. » C'est déjà pas mal comme commencement. « Disciple, c'est quelqu'un qui sait prier. » C'est vrai, mais toutes les prières ne sont pas bonnes à prendre, vous le savez. Hein. Jésus, il a cassé en disant qu'il y a certaines prières qui sont païennes. Il ne faut pas l'oublier, hein, il n'y a pas que les athées qui sont païens. Il y a disciple pour lire la Bible, c'est vrai, mais combien de kilos faut-il lire? Disciple pour marcher sous l'emprise de l'Esprit, d'accord, mais c'est quoi qu'il veut, l'Esprit, en moi? Autrement dit, si son rôle est d'appliquer Jésus et le salut, qu'est-ce que c'est qu'une vie sauvée? Qu'est-ce qui, en plus de mon casier judiciaire et mon cœur, a besoin d'être sauvé? Et là, on arrive déjà à la question délicate de la transformation du caractère. J'ai trois sujets que j'aimerais aborder avec vous dans l'apport avant un débat que j'espère qu'il sera relativement libre. Et si j'ai bien compris, on a une heure ensemble. J'aimerais tout d'abord rappeler que théologiquement, le discipulat, la suivance, pour reprendre un mot, la suivance, ou l'apprentissage, à la suite d'un maître, qui consiste à le suivre pour apprendre de lui comment bien faire. Le suivre pour apprendre de lui comment bien faire est ancré dans le fait que celui que je suis dit qu'il imite Dieu. Nous ne suivons pas juste Jésus comme n'importe quel autre gourou moral. On suit Dieu en Jésus. On suit Jésus parce qu'il suit le Père en tout, parfaitement. Il est prototype d'une création guérie. Le prototype de la création guérie. Autrement dit, il fait bon vivre là où les gens suivent ce prototype dans cette création. Pardon, je vous écoute.
Oui, je me demandais si le geste était important, comme vous l'avez imité.
Oui, certainement. Certainement. Imiter Dieu est important. Ça veut dire que je ne peux pas suivre le Jésus ressuscité à la droite du Père si je ne connais pas le Jésus humain incarné. Je ne peux pas. C'est un autre culte d'adorer Jésus comme un veau d'or que de l'adorer parce qu'il est le Jésus incarné. Je ne peux pas séparer le Jésus Dieu du Jésus humain. Même l'Antichrist et l'esprit de l'Antichrist dans les épîtres de Jean, pour le premier siècle, mais c'est récurrent dans tous les siècles, donc aussi dans notre siècle, on le reconnaît parce qu'il confesse Jésus pas venu en chair. C'est Jésus venu en chair, autrement dit, dans sa visibilité d'humanité, que nous apprenons ce que c'est qu'un disciple. C'est pas en adorant un veau d'or à la droite du Père, même pas s'il s'appelle Jésus. Et vous voyez à quoi nous mène la réflexion qui est la nôtre. Si c'est vrai que nous resterons apprentis jusqu'à la fin de notre vie, nous suivons Jésus parce qu'il imite le Père. Un vieux thème, Suivre Dieu. Suivre Dieu, c'est ce que ces esclaves, appelés hébreux, ont été appelés à suivre dans le désert. Suivre Dieu, c'est un vieux thème. L'imitation du Dieu invisible est un des paradoxes juifs et chrétiens. La ressemblance à Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'expression en termes de comportement du caractère même de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas n'importe quoi dans tous les sens, pourvu que ce soit religieux. Il veut que nous suivions Dieu. Et Jésus nous le fait connaître. C'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile. J'avais entendu Jean-Claude Jacques Chablot dire « Aimer, c'est le moteur de toute vie charismatique ». Je ne suis pas sûr. Hein. Pourvu que ce soit vrai. Si c'est vrai, c'est certainement charismatique. Si ce n'est pas vrai, c'est certainement autre chose. Quand il est dit, vous vous souvenez, Jésus, Matthieu 18, une parabole, quelqu'un qui est gracié et qui ne gracie pas les autres, ne... « Devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?»« Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Matthieu 18, 33, c'est à ça dont je fais allusion. Autrement dit, la sainteté qui nous est demandée est une sainteté restauratrice, une sainteté miséricordieuse, parce que Dieu n'a pas d'autre sainteté que d'intégrer l'amour. Des fois, on a dit, la sainteté, vous savez, c'est surtout tu ne fais pas, tu fais, tu ne fais pas, tu ne fais pas. La sainteté, ce n'est pas que tu ne fais pas, c'est aussi tu fais. Et pour avoir cru que c'est juste ne fais pas, on s'est vraiment planté de sainteté. Et ce n'est plus la sainteté. C'est un esprit pharisien de quelqu'un qui se croit arrivé meilleur que les autres. Or, la justice de Jésus... qui a suivi le Père, n'est pas une justice pénale. Ça va plus loin que la justice pénale. C'est une justice qui restaure. Et c'est pas la même justice. Quand Jésus dit, voilà, je vais vous dire, je suis heureux de faire une nouvelle alliance avec vous, que votre lumière brille aux yeux des hommes afin que voyant vos justes actions, bonnes œuvres, j'aime pas trop. Vos comportements adéquats. Mm-hmm. Œuvres bonnes, on dirait de la charité qu'on fait à côté de la vie religieuse. Qu'en voyant vos bonnes œuvres, il loue votre Père qui est dans les cieux. Là, le concert de louange, c'est les païens qui le font, hein, c'est pas les chrétiens. Afin que voyant vos manières d'agir, il voit qui vous intégrez les marques de la famille de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Le racine de discipula, c'est l'imitation de Dieu. Afin que voyant les marques de Dieu, il loue votre Père qui est dans les cieux. C'est parce que les actes parlent plus fort que les paroles. Nous suivons donc le Fils car il suit le Père. Et j'ai la naïveté de penser que ce qui vaut pour le Christ vaut pour l'Église, y compris la croix, y compris la résurrection, et que c'est une bonne nouvelle. L'un des passages les plus clairs et les plus révélateurs du grand et vaste apprentissage que nous sommes appelés à vivre, c'est tu aimeras ton ennemi. Matthieu 5, 44, 56, 5, etc. Car Dieu a fait comme ça. Car lui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il n'y a pas de raison que tu fasses autrement. Afin que vous deveniez des fils de votre Père céleste. Vous avez vu ce passage, Matthieu 5 ? Aimez vos ennemis afin que vous deveniez les fils. Ou les filles, pardon mesdames, de votre Père. Donc c'est les marques de la famille de Dieu. Donc la question, quand on pense aux disciples, c'est pas tant combien de disciples, mais quel genre de disciples désirons-nous voir se multiplier. Et avant, désirons-nous voir se multiplier, quel genre de disciple le Seigneur voudrait que je sois. Autrement dit, les disciples, d'accord, mais de quel maître? Et même entre évangéliques, ce débat n'est pas bien mené. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est cet enseignement que l'on trouve chez Jésus, que je vous lis courtement, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des bibliques de l'époque, je vous dis, croyant en l'inspiration de la Bible, je peux vous assurer que les scribes et les pharisiens, ils nous battent. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des bibliques de l'époque, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est là que je fais une distinction importante entre une interprétation de la volonté de Dieu, la justice c'est la volonté de Dieu, en faveur de moi, ce que vivaient les scribes et les pharisiens, au nom de la justice, ils ne fréquentaient pas un certain nombre de gens, ce que Jésus ne faisait pas, qui fréquentait tout le monde. Au nom de la justice, ils disaient pur et impur, ils disaient digne ou pas digne, ce que Jésus ne faisait pas. La justice supérieure n'est pas une justice pénale et de distanciation. La justice qui ne suffit pas pour être sauvé, entrer dans le royaume de Dieu, c'est être sauvé, vous êtes d'accord là-dessus? Ou bien, vous avez une hésitation? La justice qui ne suffit pas, c'est d'avoir une religion pour soi, y compris le pardon des péchés. Elle ne suffit pas. La justice qui est demandée ici est une justice qui va plus loin. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle de cette religiosité inspirée par la Bible, je fais exprès, pour qu'on se sente concerné. Je ne parle pas des méchants libéraux. Autrement dit, Jésus va prendre un tas de cas de figure où il dit que la justice est en faveur du prochain. Il reprend tous les cas de figure. Même, il reprend la question de la colère et du conflit. Et il te dit, t'es pas quitte si t'as pas tué. Il te dit, si l'autre en a contre toi, pas si toi t'en as contre lui, si l'autre en a contre toi, va le trouver, réconcilie-toi avec lui, c'est toi qui dois prendre l'initiative. Vous saisissez? Nous, on dit, j'ai pas fait de mal, c'est sa faute, il a qu'à venir pour te demander pardon. Non? Si l'autre en a contre toi, va le trouver, l'initiative de la restauration. Là, j'ai appelé cette justice-là une justice restauratrice. Vous comprenez? Qui restaure les relations. Elle va plus loin que la justice juste pénale, parce qu'elle intègre l'amour. L'amour est demandé comme m'est demandé le fait de ne pas voler. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, et je vous rappelle aussi que eux faisaient des prosélytes. Vous savez, dans Matthieu chapitre 23, verset 15, il est dit, ils parcourent la mer pour faire des prosélytes, et quand ils en ont trouvé un, et ils parcourent la mer pour faire des prosélytes, c'est la mission juive. Il n'y avait pas que les chrétiens qui avaient une mission. Mais faire un tas de disciples, ce n'est pas le but. Faire un tas de disciples de ce maître-là, c'est le but. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et la quantité avec la qualité, les deux ensemble, ce serait encore mieux. Et si, quand ils en ont attrapé un, il les rend dignes de la GN deux fois plus que vous. C'est juste pour dire, dans l'annonce de l'Évangile, il y a une dimension morale, indispensable, indissociable. Le problème de la mission juive, c'est qu'il n'y avait plus la qualité morale de Jésus. Il y avait une autre morale, celle de la justice punitive, du pur et de l'impur, du fréquentable et de l'infréquentable, pas la justice restauratrice. Une mission sans contenu moral du royaume de Dieu, des ordres de Jésus, n'est peut-être plus la mission de Jésus. À quelle conversion on invite quelqu'un? C'est la question. Celui qui a mes commandements et qui les garde, rappelle l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 21, c'est celui qui m'aime. Comment on peut savoir qu'on aime Jésus? Il faut déjà les connaître. Les évangéliques ne méritent pas toujours bien leur nom parce qu'ils ne connaissent pas bien les commandements de Jésus. Sauf un. Aimer son prochain comme soi-même, et le deuxième, aller par tout le monde faire des prosélytes. Enfin des... Mais à part ça, qu'est-ce qu'on est pauvre dans la connaissance des ordres de Jésus, c'est-à-dire par les évangiles. J'attise un petit peu l'attention. Jésus nous appelle à devenir, à être des disciples de quelqu'un qui donne sa vie pour restaurer des relations. On le voit dans son enseignement et dans sa vie. On a la chance. Jésus est allé à la croix parce qu'il a mis en pratique ce qu'il a enseigné. C'est parce que Jésus a dit « Aimez tout le monde, y compris vos ennemis » qu'il a été crucifié et qu'il a mis en pratique. La croix, on peut en parler, mais pour nous, pour le moment, on retient que la loi et la volonté de Dieu, Jésus la réinterprète en faveur de la relation et du prochain, en pour gagner des relations. Si on te donne une gifle, tu tends aussi l'autre, c'est pour rester, pour dire que l'offense que je reçois est moins importante que la dignité de celui que je veux gagner. Sinon, je prends la poudre d'escampette. La croix, c'est une volonté de rester et de ne pas fuir dans le désert. Vous avez déjà été à Jérusalem? C'est pas loin le désert, juste à côté. Vous passez, pst, Gethsémané de l'autre côté, fini la croix. Il est resté pour poser le problème. La croix, c'est une manière d'aimer et de rester pour poser un problème. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La croix, c'est une manière de vivre la justice restauratrice. Unique, extraordinaire. Lui, il n'est pas tordu. Nous, on est tordu. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous ne devons pas prendre au sérieux l'apprentissage de ce que être disciple signifie. Pourquoi? À cause de la grâce. On ne vous demande pas d'être parfait. On ne nous demande pas d'être parfait. On nous demande d'être plus aimant. Et là, l'évangile est là pour nous dire comment et que nous ayons à le faire. Alors, bien sûr qu'il faut des lois pour limiter le mal. Mais si notre moralité s'arrête aux lois vaudoises ou aux lois de Suisse, c'est pas grand-chose. Tous les païens suisses font à peu près la même chose. On n'est pas quitte avec le Seigneur en obéissant à une éthique minimale. Une justice qui intègre l'amour, pas une autre justice. Jésus, quand il vient, il nous fait comprendre l'esprit de la loi. C'est pour ça qu'il doit nous envoyer son esprit. Ça ne nous serait pas venu à l'idée que nous sommes faits pour aimer les ennemis. Ça ne nous serait pas venu à l'idée s'il n'était pas venu pour nous le dire. Enfin, de la religion chrétienne, c'est la seule qui dit ça. C'est pour ça que je suis encore chrétien. On pourrait reprendre les choses, mais je voudrais résumer ici ce que je comprends de l'enseignement de Jésus, et même ce que je comprends de l'apôtre Paul. Si on comprend Paul à la lumière de Jésus, c'est un autre Paul. Le Paul à la lumière de Jésus. Mais il nous dit, tant que ça dépend de vous, soyez en shalom avec tous les hommes. Mes amis, il y a du boulot là. Hein, mais ça dépend beaucoup de nous. Romains chapitre 12. L'esprit, c'est l'amour.
et beaucoup d'autres choses, y compris la joie, heureusement. La loi en faveur des relations pour gagner des situations. Vous comprenez le thème ? Et pourquoi, moi, le terme de disciple ne me dit pas encore de quoi il est question. On peut être disciple de Moïse, on peut être disciple de choses très très morales, mais qui ne gagnent pas les relations. Mais la croix est au centre de notre vie, de la définition même de notre mission chrétienne, c'est la raison pour laquelle j'aime le terme de disciple. Quand je regarde Jésus, je vois qu'il fait un tas de choses avec la loi. Il nous défend des interprétations arrangeantes pour nous de la loi. Il nous interdit de croire que, juste en n'ayant pas couché avec le partenaire sexuel de quelqu'un d'autre, on est clean devant Dieu. Il nous dit, t'as vu ce qui se passe dans ta tête ? Et dans la tête, il y a un tas de fantasmes qui sont aussi meurtriers que si on avait commis l'adultère. Et donc, je trouve extraordinaire. Jésus va au-delà même de l'arrangement, de l'interprétation arrangeante de la loi. Il inclut le regard de la convoitise dans l'adultère. Il révoque même un certain nombre de commandements parce qu'il disait « Vous êtes tellement tordus que vous ne savez pas bien utiliser la règle du serment. Pourquoi vous prêtez serment ?» Soyez intègre quand vous dites oui, quand vous dites je ne sais pas, vous dites je ne sais pas, quand vous dites non, mais tenez-vous derrière ce que vous dites et arrêtez de prêter serment. Moi, je comprends Jésus comme ça. Et on voit que le commandement de l'amour, pour ceux qui voudraient juste aimer ceux de leur clan et de leur tribu et de leur langue et de leur race et de leur religion, il prend un grand coup. Tout le monde. Y compris l'ennemi, et en temps d'occupation, l'ennemi, on sait qui c'est. Et à tel point qu'un soldat romain qui a le droit de vous forcer de porter son barda militaire sur 1 kilomètre, Jésus donne l'ordre de le porter sur 2. Vous savez pourquoi ? Quand même, c'est des collabos, enfin, c'est une troupe d'occupation, des païens en plus. Sur leurs étendards, ils ont un sanglier. C'est porc. Jésus vous dit, ils ont le droit légalement de porter, de vous faire porter, vous les juifs, leur barda militaire sur un certain nombre de kilomètres. Moi, je vous dis de le faire sur 2 fois plus. Pourquoi ?
Pour les gagner.
Pour les gagner à quoi ?
Pour rester en relation.
Et quelle relation ?
Pour montrer qu'on apprend les choses autrement.
Pour gagner la relation. Le premier kilomètre, ouais, moi je suis dans mes droits. Deuxième, mais t'es fou toi, mais t'es fou. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dis, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Parce qu'il y a un créateur, et puis toi, le Romain, eh ben, je vais te dire, t'es à l'image de Dieu. Et Dieu voudrait aussi te gagner dans une relation de respect. Écoutez mes amis, si c'est ça être évangélique, alors on a du boulot. Hein. Dans l'enseignement, mais dans la pratique. Et surtout, dans des mauvaises habitudes à changer par des bonnes habitudes, ça prend combien de temps ?
Toute une vie.
Un pas après l'autre. Et au bout d'un certain nombre de pas, ça devient une bonne habitude. Je crois que c'est possible, et je crois que le Saint-Esprit, Jésus, n'est pas seulement venu pour qu'on rampe comme des pécheurs misérables par terre, en demandant pardon, 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 je crois que Jésus veut qu'on ait d'autres habitudes. Et je crois que nos églises sont faites pour ça, pour développer en nous le caractère des disciples. Je crois que nos réunions doivent être centrées sur la transformation de nos caractères pour être de meilleurs disciples. Pas juste des pourvoyeurs d'excuses à bon marché et de pardon. Au-delà de ça, je n'ai pas dit que ce n'est pas le pardon qui est important. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste au-delà de ça. Le pardon est un moyen, mais n'est pas un but. Pour gagner des relations, Jésus et ses disciples, un même combat. Vous avez encore un petit peu d'attention ? C'est mon troisième. Parce que c'est une sorte de résumé. Après, on peut en discuter, hein. Vous voulez bien ? On parle de disciples. Jésus n'a pas seulement enseigné la justice qui restaure au nom de la grâce de Dieu. Il a aussi pratiqué. Jusqu'à là, ça va ? C'est pour ça qu'il est mort. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité.
S'il n'avait pas pratiqué la justice qui plaît à Dieu, il ne serait pas ressuscité. Par conséquent, Jésus n'a pas fait que à ma place pour que je n'ai pas à le faire. Jésus a fait à ma place pour que j'ai à le faire moi aussi. La substitution n'est pas une substitution morale. C'est le début d'une transformation. C'est un peu compliqué ? Non, ça va. C'est ce que Jésus dit. Il le dit très clairement. Il dit, par exemple, n'allez pas croire. Vous savez, Jésus nous apprend à ne pas croire. Si, si. Il nous apprend à être incrédule. N'allez pas croire que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. C'est-à-dire rendre manifeste et parfait la loi et les prophètes. Je suis venu pour exemplarifier, si vous voulez, pour le rendre visible, la loi et les prophètes. Je continue. Disciple d'un maître qui se charge de sa croix, Jésus et ses disciples, même combat. Écoutez, notre époque dans laquelle moi je baigne, c'est caractérisé par la recherche de mon confort et de ma tranquillité et de ma réalisation de moi et de mon plaisir personnel roi, aussi en matière de spiritualité. Une fois qu'on a dit ça, on sait ce qu'on a à faire. Dès lors, celui qui vient en me parlant de la nécessité de renoncer à quelque chose et de porter ma croix, j'ai du problème avec ça. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous dit. Qui veut être mon disciple, vous avez ça dans vos évangiles, doit renoncer à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Seulement, vous et moi, on n'est pas masochistes, d'accord ? Alors on réagit assez comme des Suisses moyens. Ça c'est Marc 8, 34 au niveau de la citation.
C'est marqué Suisse moyen ?
Non, c'est mon interprétation. Ce que je voudrais que vous reteniez ici comme une suggestion, porter sa croix, c'est une manière d'aimer. Et c'est rien d'autre. C'est l'éventualité que ça puisse mener à des problèmes quand on aime. C'est l'éventualité que ça puisse mener à des problèmes quand on aime. Dites-moi, est-ce que vous connaissez beaucoup de puissants injustes qui ont changé simplement parce qu'elles voulaient se bonifier toutes seules ? C'est en confrontant les puissances d'injustice qu'on risque d'avoir des problèmes. Mais aimer, c'est confronter les puissances d'injustice parce que Jésus l'a fait. Porter sa croix est d'abord une question d'amour et rien d'autre. Enfin, c'est ce que j'essaie de vous dire. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 1 Jean 3. Aimer à cette ampleur, c'est un nouveau commandement. Être capable de s'oublier parce qu'on veut plaire et faire du bien au prochain. L'apôtre Paul dirait ça autrement. Il dirait surmonter le mal en faisant le bien. Ça, c'est la croix. Surmonter le mal en faisant le bien, c'est la croix. Enfin, le mal, il ne va pas changer tout seul comme ça. Hein. Il a besoin d'être confronté au bien et au juste. À la repentance aussi, bien. Au bien. Au respect de la personne. Un tyran peut se convertir si celui qui lui dit de se convertir le respecte en tant que personne. Même dans le livre de Daniel, il y a Nebuchadnezzar qui disait, vous n'avez jamais vu, dans J'aime l'Éternel, ils n'ont pas fait chanter ce cantique de Nebuchadnezzar, vous ne connaissez pas ? C'est au milieu du livre de Daniel. Et maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte le Dieu des cieux, il abaisse qui veut, il élève qui veut. Vous ne connaissez pas ? Eh, ça c'est un cantique, hein ? Ouais. Wow, un tyran qui passait sur les gens avec des herses de fer pour les tuer, enfin ceux qui n'étaient pas assez éduqués et beaux, il est converti. Vous savez pourquoi il s'est converti ? Je vous écoute. Parce que ?
La peur.
Là ? La peur. La peur. Il s'est converti parce qu'il a peur.
Non, les gens.
Les gens avaient peur. Oui, mais lui, pourquoi un tyran se convertit ?
Parce qu'il y qu'un juste qui lui a parlé ?
Oui, ou une juste. Ou injuste. Il y a eu juste un petit ramassis de gens qui n'ont pas obéi à certaines lois, qui ont fait de la désobéissance civile. Et ce n'est pas agréable.
La preuve, dans le livre de Daniel.
Oui. Oui, il y a la fournaise, etc. Mais il y a aussi un tyran qui se convertit. Être témoin, ça ne se passe pas juste comme ça quand tout va bien. C'est au tribunal qu'on témoigne. C'est quand la dernière fois que vous étiez au tribunal et pour quelle raison ?
Objection de conscience.
Il est possible de témoigner. Donc, comment faire pour que, quand on est dans un bain de conformisme mou, chacun replié sur nous-mêmes, se servant de Dieu plutôt que de servir Dieu, même charismatiquement, comment faire pour avoir tout d'un coup le feu que dire « Moi, j'ai compris comment fonctionne le témoignage et l'amour, je suis prêt à porter les conséquences imaginables et prévisibles de, mon témoignage. » Ça veut dire porter sa croix. Il faut être convaincu quand même, ou alors un peu...
Fou.
Con. Il faut être convaincu. Si vous doutez de la résurrection, c'est pas la peine d'essayer, hein. Ça marche pas à tous les coups, nous dit l'épître aux Hébreux. Hein, c'est vrai? Enfin, marche. Si, ça marche à tous les coups, mais pas comme on le prévoit pour notre plaisir du conformisme. Donc, je suis catéchisé par l'évitement de la croix. Je suis catéchisé par le fait de ne pas faire de vagues, de passer partout. Vous savez? Et comment faire pour apporter l'évangile d'un autre roi, d'une autre politique, d'un autre nationalisme que le nationalisme suisse ou français. Je crois qu'il est venu pour la guérison des nationalismes, Jésus. Et qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours compatibles. Et ça fait aussi partie de la discipula, de la vie des disciples. Mon allégeance première est à un autre peuple. Première, j'ai dit. Je n'ai pas dit seconde.
On pourrait dire la libération.
C'est ça.
La guérison à l'égard de ces choses.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Commencer, quand on est chrétien, d'aimer son terroir, son peuple, et de vouloir le bien de la cité dans laquelle on se trouve. Hein ? C'est une bonne question. On rejoint notre éthique, mais on est tout près de la question du discipulat. Donc, renoncer à soi-même ou porter sa croix, c'est plus que de subir un désagrément. C'est être suffisamment adulte pour aimer. Ça vient d'une démarche volontaire, vous êtes d'accord ? Ça ne peut pas venir d'autre part. Normalement, ça devrait être compris dans ce que ça veut dire quand on demande à être baptisé en Jésus. Et il ne faut pas enseigner ces choses après le baptême, mais avant, pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent. Un minimum au moins. Je vous lis un texte. « Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple. » Vous y êtes ? Vous situez ça où à peu près ? Dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 2, 21-22. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Suivre ses traces, c'est discipula. Hein, afin que nous vivions pour la justice. C'est pas afin que nous devions des héros martyrs. Afin que nous vivions simplement pour la justice, nous dit 1 Pierre 2, 21. Lui dont les meurtrissures nous ont guéris. Lui dont les meurtrissures nous ont guéris, c'est la base racine même de la notion de discipulat chrétien. Je sais que ces meurtrissures guérissent, par conséquent, je suis prêt à aimer d'une manière plus adulte que juste sentimentalo-religieuse. Alors suivre ces traces, à la fois unique pour Jésus, il est le seul à l'avoir fait parfaitement, c'est pour ça qu'il nous sauve, et à la fois... Il est Seigneur en tant qu'il est Sauveur. Et il est Sauveur en tant qu'il est Seigneur. Je vais terminer ici. Souffrir pour le nom du Christ, c'est pas juste souffrir parce qu'on a un cancer ou mal aux dents, ou bien allez savoir quoi, ou parce que je perds de l'argent. C'est pas porter sa croix, perdre de l'argent parce que tout d'un coup le cours s'effondre ou que je suis chômeur. C'est juste un malheur. C'est pas porter sa croix. Porter sa croix, c'est quand on aime et qu'on confronte le mal en faisant le bien. Des fois, ça peut bien sûr se vivre à différents niveaux, dans la famille parfois. Certains sont vraiment rejetés. Ou dans l'entreprise, quand on empêche de tourner en rond parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas juste. On risque son travail. Ça, c'est une actualité qui est plausible ici aussi dans nos régions. Si vous voulez, c'est l'effet d'un sain dérangement d'une fausse paix. Je termine là-dessus. Vous avez compris la distinction qui peut exister entre justice pénale à la pharisienne, sur la base biblique, et justice restauratrice à laquelle nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. Pour pratiquer ça, je vous donne juste quelques courtes lignes pratiques. Je crois que si on ne connaît pas les ordres de Jésus, on ne va pas les pratiquer. Si on a un moindre doute que Jésus nous demande ça, nous n'allons pas le pratiquer, parce que nous sommes catéchisés autrement. Il faut par conséquent les connaître, et nos églises sont faites pour que la parole du Christ habite parmi nous abondamment. La deuxième chose, l'adoration est indispensable, mais il faut que je sache qui j'adore. L'adoration fait que je ne suis pas un Dieu, je suis une créature à son service. Nous avons besoin de lieux un peu plus contre-culturels qui s'appellent des églises. Tellement la publicité et nos égoïsmes individuels nous ont catéchisés, nous avons besoin d'un lieu où c'est plus clair qu'on obéit à Jésus. Ça s'appelle l'église. Que l'église soit l'église. Un troisième ou quatrième point, nous serons tous des boiteux jusqu'à la fin de notre vie. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous ne boitons pas dans la bonne direction. Ça vous va ?
Oui.
Oui. Méfiez-vous des gens qui disent qu'ils sont arrivés. Que notre allégeance pour le Christ soit claire. Disciple égale apprenti. Apprenti de quoi ? C'était ça que je voulais toucher avec vous. La croix est le résultat prévisible qui advient lorsqu'on entreprend de vivre en faveur du prochain. Ça peut déranger parfois, mais le Seigneur a promis d'être avec nous. J'aimerais maintenant suffisamment apporter, je crois que vous avez reçu aussi beaucoup dans cette journée, vous avez compris la chose toute simple que j'ai essayé d'apporter, je crois. Hein. Pour une justice restauratrice. C'est ça, être disciple. C'est ça que... Je crois que nous sommes appelés à apprendre. Est-ce qu'on peut avoir un moment de débat entre nous ? Des questions, des remarques, des autres éclairages, des prises de conscience ?
Dites me fait penser à quelque chose, un bel encouragement que j'avais reçu tout à l'époque de mon ministère. Je suis officier de l'armée du salut depuis 10 ans. J'ai fait une formation plutôt en cours d'emploi, j'avais bossé 15 ans dans l'industrie avant. Et puis, alors qu'un vieil officier de l'armée du salut, qui vit toujours, qui aura 92 ou 93 ans maintenant, avait appris que je risquais ce ministère, me téléphone et me dit « Tu verras, tu devras avaler bien des couleuvres dans ton travail d'officier de l'armée du salut, alors prends une bonne... » cuillère d'huile de foie de morue chaque matin, ça aide. Puis ensuite, il me dit, tu verras, il y a bien des fois où tu seras avec des gens, des personnes, tu ne sauras plus quoi faire, quoi dire, tu ne sauras plus celles qui ont raison, ou si c'est toi, tu ne sauras plus ce qu'il faut conseiller, les conseiller, ou baisser les bras, tu sais plus. Mais garde une chose, continue, ou bien commence à les aimer. Et ça, c'est une parole que je vais garder tout au fond de mon cœur.
Oui. La volonté de Dieu en faveur du prochain. Et pour ça, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord, hein ? Ah là, je peux vous dire qu'on a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu.
Oui.
Oui. Des remarques. Vous pouvez aussi polémiquer. Hein ? On n'est pas là juste pour être d'accord.
Moi, j'aime beaucoup l'évangile radical parce que je
pas quand même. J'avais besoin d'entendre ça, ça fait tellement du bien. Que Jésus va toujours beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et ça fait peur, mais on a envie d'aller aussi loin que ça. J'avais une question sur le fait de... Parce que tu fais pas mal de comparaisons. Et tu dis... Et Jésus aussi, d'ailleurs. Hein, il compare ce qu'il dit aux pharisiens, etc. Donc finalement, il y a le risque de se comparer aux autres et de dire, ben voilà, moi, je suis quand même plus radical, plus consacré, plus je sais pas quoi, par rapport à celui-là, par rapport à celui-là. Et comment est-ce qu'on résiste à l'orgueil ?
Bon, c'est très difficile d'être orgueilleux en suivant Jésus. Honnêtement. Voilà. Je ne vois pas comment elle peut être sauvée par les œuvres avec, en suivant le Seigneur Jésus. Voilà. Si tu ne connais pas la grâce, tu abandonnes tout de suite. Mmh. Honnêtement. La barre est tellement haute, mais en même temps, le Seigneur ne nous demande pas de sauter par-dessus. Il nous dit, je suis avec toi, va de l'avant, et ma force de résurrection te suivra, te précédera, t'accompagnera, te soutiendra. Alors l'orgueil, c'est quand on est nouveau au centre de ce culte. Hein. Le Saint-Esprit nous décentre en disant le prochain est important aux yeux de Dieu. Pourquoi il est important ? Parce que tout comme toi, un, il est image de Dieu. Deuxièmement, quand moi je dois aller à adorer le Seigneur, Dieu m'interdit d'adorer moi tout seul le Seigneur devant lui. Je suis toujours avec mes prochains. Parce que c'est ensemble qu'on sert le Seigneur, c'est ensemble qu'on a été créé. Il nous demande des comptes. Qu'as-tu fait de ton frère, Caïn et Abel, mais aussi qu'as-tu fait de ton frère qui est en colère ? Enfin, c'est ensemble qu'on se présente devant ce Dieu. On en a fait trop une religion individuelle. Je ne dis pas, c'est important, la conversion, elle est individuelle et elle devient collective. Mais elle est pas que individuelle. C'est ensemble qu'on se présente devant le Dieu de la création. Sinon, si je m'en fiche des autres, je ne rencontre pas mon sauveur, je rencontre mon juge. Et alors, il risque d'arriver ce qui est arrivé à l'an 70 pour le temple. Déplacer le chandelier. Simplement parce que une religion qui a la prétendue représentation du Dieu unique, mais qui n'en a plus la valeur morale, elle s'amène à jugement. C'est vrai pour les synagogues, c'est vrai pour l'Église, pour les dénominations, quelle que soit la confession de foi.
Juste deux commentaires, en fait. En fait, j'aime bien ce que tu disais à la fin, qu'on n'est jamais arrivé. Parce que je crois que être un disciple de Jésus, c'est tellement en tension qu'on a envie d'essayer de savoir comment accomplir quelque chose.
Oui.
Je pensais à, en lisant « Vive la justice supérieure en faveur du prochain », ça peut dériver en « Ah ben, moi je donne mon argent, par exemple, à une œuvre, et puis c'est bon, ben voilà, donc ça j'ai accompli ce bout. »
Oui.
Ben voilà, puis on sait que Paul tout d'un coup nous dit « Voilà, tu peux donner tout ton argent, puis pas avoir l'amour. »
Oui.
Donc, oui. J'aime bien cette tension, en fait, qui est tout le temps là. Mais je remarque aussi que ma tendance, puis j'ai l'impression notre tendance, c'est quand même chercher à accomplir, parce qu'on déteste ça.
Oui, on veut un programme.
Ouais. Mm-hmm. Et puis justement, ça vient sur mon deuxième commentaire, qui est un peu pessimiste peut-être, mais rien que si je prends l'époque des peut-être 50 dernières années, je n'étais pas né, mais, mais je lis des choses qui parlent déjà de ça, et puis j'ai l'impression que... cycliquement, il y a quelqu'un qui revient en nous rappelant.
Oui.
Et puis, où est-ce qu'on en est, en fait ?
Oui.
Et puis, voilà, peut-être certains de vous qui avaient trois fois mon âge l'entendaient depuis des années. Voilà, c'est ça que ça me questionne, quoi.
N'abandonne pas le chantier. Il n'y a rien de plus moche qu'un chantier abandonné. N'abandonnez pas le chantier. Il restera inachevé jusqu'à la venue du roi. Mais il faut qu'il soit occupé, ce chantier. Hein ? Je crois que ça, c'est important. La cathédrale toute finie, eh ben... un jour, peut-être, nous le verrons. Oui. Pardon, juste un tout petit commentaire encore. Vous voyez, et quand on a cette compréhension-là de être chrétien ou de être l'Église, vous n'ajoutez pas un programme missionnaire, parce que c'est le programme missionnaire. Tu ne vas pas te dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la mission à côté du culte ? Ou bien, qu'est-ce que je vais faire de la mission parce que tes voisins sont concernés par la faveur du prochain ? Tu saisis ce que je veux dire? Bien entendu que la mission au loin, dans les endroits où Jésus n'a jamais été annoncé, doit se programmer. Mais la mission, elle est toute naturelle. Et alors, les gens voyant nos bonnes œuvres nous disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et alors, il faut témoigner. C'est pas les agresser avec un discours de plus par rapport à tout ce que la radio fait dans tous les sens. C'est quand ils vous demandent la raison de votre foi, être en mesure de dire « C'est la grâce de Dieu en Jésus, c'est le fait qu'il nous aime et qu'il veut une... des relations guéries. Ouais. » Pardon, je reviens un petit peu en arrière.
La remarque que je ferais, c'est qu'en fait, il n'y a pas le choix. Tu parles de conformisme mou. On est quand même assez spécialiste en Suisse. Et encore spécialiste, j'ai l'impression, dans des églises où, voilà, ni pour ni contre, bien au contraire, surtout pas, qu'en face de vagues.
Oui.
Et en même temps, moi, je me rends compte que qu'on ne veut plus de ça. Qu'on en a marre.
Oui.
Qu'on ait 12 ou 78 ans, ou, qu'on veut vivre quelque chose.
On ne veut plus du quoi, du conformisme.
On ne veut plus du conformisme. On en a marre de cette réalité d'être
oui.
juste.
Oui.
Et puis que le, et, mais s'il n'y a pas une résurrection aussi de ça,
oui.
L'Église en Suisse romande est appelée à mourir parce que,
oui.
parce que ça mène rien d'autre. Quoi.
Oui.
Et en même temps, je suis encouragé de ce que Dieu fait. Où justement il y a des endroits, il y a des vies, dans toutes les églises, il y a des vies où Dieu retouche et puis des...
oui.
où tout d'un coup ça reprend vie.
Oui.
Et c'est ça qui est le plus beau à accompagner. Quoi.
Oui.
Quand on sort de ce conformisme, pas juste pour être anti-conformiste,
oui.
mais pour suivre le Christ qui lui,
oui.
l'était à plein.
Moi je vois des choses chez des vieux disciples de mon église, extraordinaires. Et puis les jeunes ne sont pas dupes, ils ont envie. Et je vois des choses très extraordinaires chez des jeunes. Et je ne suis pas aussi pessimiste que les choses typiques du Christ continuent par l'Esprit et pourvu que la parole soit aussi annoncée pour qu'on ne se trompe pas sur ce qui est typique de Jésus. Mais une chose, il faut faire le deuil. Le deuil que l'Église doit nécessairement être majoritaire dans un pays. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que l'Église n'est plus l'Église. Ça, c'est grave. Alors, tant mieux si elle redevient majoritaire. Mais c'est pas à nous de faire ce genre de choses, à nous d'être fidèles à l'amour du Seigneur. Et c'est comme ça que je comprends.
Tu as parlé des commandements de Jésus.
Oui.
Je ne sais pas si c'est dans ces termes, mais enfin, c'est ça
oui,
que je veux dire.
Oui,
hein.
oui.
Et j'ai l'impression qu'on les oublie très facilement. Et que ce n'est pas quelque chose qui nous vient spontanément à l'esprit. Alors que Jésus a donné des commandements qui ne sont pas la loi de Moïse, qui indiquent un tout autre chemin,
oui.
et qui le mettent, lui, à la première place.
Oui.
Et il dit, croyez en moi.
Oui.
Et il dit, suivez-moi.
Oui.
Et il dit, gardez mes paroles.
Oui.
Et il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements.
Oui.
Et si on était vraiment centré là sur sa personne et sur ses commandements nouveaux, je pense que ça fait place. Si on le fait, ça fait une différence.
Mm-hmm.
Ouais. Et puis il ajoute aussi spécialement par rapport à l'Église. Hein, et je vous donne un commandement nouveau,
mm-hmm.
les autres aussi sont nouveaux.
Oui.
Mais celui-là, il est vraiment particulier.
De son ampleur.
Oui. Mm-hmm. Aimez-vous les uns les autres.
Mm-hmm. Comme.
Comme je vous ai. Okay. Alors tout ça nous ramène à lui. Et lui donne une importance qu'on ne lui donne pas habituellement.
Oui.
Il me semble que, oui, qu'une réflexion sur ces commandements de Jésus est très importante.
Est-ce qu'on pourrait dire que l'enseignement que tu nous donnes, là, nous réamène quelques siècles après à réconcilier Paul et Jacques sur le discours de la foi et sur le discours des œuvres, et puis que là, on a une réponse en disant,
oui.
mais c'est les deux.
Oui. La justification n'est pas le but où Jésus voulait en venir. C'est un moyen pour un autre but, c'est la vie transformée. La vie sous l'emprise de l'Esprit Saint et pas sous l'emprise de la chair, qui est justement un retour à la spiritualité pharisienne au nom de l'Évangile. Hein? Donc c'est... Oui, oui, oui. Oui, oui.
Puis ta deuxième question ou remarque, c'est... tu as parlé du mauvais catéchisme à un moment donné. Est-ce que dans l'histoire de l'Église, proche ou plus lointaine, il y a un moment où on constate cette déviance, ce dérapage? Parce que des fois, on apprend des erreurs.
Oui. Ben, je pense que c'est récurrent. Enfin, oui. Il y a chez nous quelque chose qui ne demande qu'à ressurgir pour se réaccaparer égoïstement la religion.
Chasser le naturel.
Oui, c'est ça. C'est une perversion.
Du bien.
Oui. Mais je pense qu'à partir du moment où l'Église est devenue la chrétienté, ça a corrompu ce message et on a fait un trafic des choses arrangeantes pour un groupe donné ou pour une religion. On l'a fait arrangeante. Et c'est là que cette dimension révolutionnaire et plus radicale de l'Évangile s'est estompée. Et alors, il y a quoi? Ce sont des marginaux comme les Vaudois du Moyen-Âge, comme les Hussites, comme les Taborites, comme les Anabaptistes, comme certains Huguenots, etc., certains Zwingliens. On retrouvait ça, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas garder ça. La vie, elle ne se conserve pas. Elle doit se vivre. Et vous connaissez ça. Une génération prend feu avec le Seigneur et la deuxième génération imite le feu. Et c'est déjà plus le feu. C'est ça. Voilà. Il faut que l'Esprit de Dieu et chaque génération se laisse se reconquérir. Il y a une étude, c'est en anglais, sur les évangéliques américains, sur le taux de divorce chez les évangéliques américains qui est le même que le taux de divorce des moyennes des Américains. Le taux d'offrande des chrétiens évangéliques en Amérique n'est pas plus haut que la moyenne de ce que donnent les Américains. Et ça doit faire réfléchir. Si votre justice ne dépasse pas celle...
Ça veut dire que les Américains sont tous évangéliques?
Non, c'est... Ça aurait pu, ça aurait pu.
Ouais. Pour illustrer simplement la question, et en même temps pour être un peu polémique, mais justice, la justice supérieure, ça peut quand même impliquer, même parfois pour être en tant que responsable d'église, ça m'a beaucoup frappé en lisant une biographie récemment, que l'église peut se séparer du pasteur. Je dis ça avec beaucoup, il faudrait mettre plein de nuances, parce qu'il ne faut pas faire exprès de mettre le feu à une communauté, c'est évident. Et j'ai lu assez récemment tout le parcours de Roger Williams.
Oui, qui est, Baptiste.
Et globalement, c'est grâce à lui qu'on a travaillé sur la liberté de conscience.
De conscience.
On est les héritiers de la liberté de conscience. Et une des choses qui m'a frappé, c'est qu'il a travaillé d'abord en Angleterre pour essayer... Il était minoritaire. Et ils se sont bagarrés pour avoir la liberté de conscience. Ça a chauffé, ils sont partis, ils s'est poté lui aux États-Unis. Et aux États-Unis, parce qu'il s'est rendu compte que ceux-là même... qui étaient très exigeants en Angleterre, imposaient leurs règles aux Indiens.
Oui.
Et du coup, il a prêché dans les églises en disant « c'est pas juste là, ce qu'on fait ».
Oui.
Et plusieurs fois, au début seul, après avec sa femme, ses enfants, il a été viré de l'église. Donc, il y a un côté aussi exigeant, hein, dans une prédication fidèle à l'évangile, ça peut aller jusque-là.
Oui.
Ce qui m'a frappé dans une transposition contemporaine, et c'est là peut-être que ça fâche davantage,
oui.
Mais je travaille en France, et... on a parlé beaucoup avec des jeunes et des moins jeunes de cette figure de Roger Williams, non pas pour la sacraliser, mais pour aborder cette thématique. Et tout le monde était emballé de cette figure un peu radicale, non-conformiste. J'ai tenté modestement de faire des transpositions aujourd'hui, et je leur ai dit, mais alors qu'en est-il de l'islam? Roger Williams, il y a des écrits fabuleux où il dit, je prie Dieu de tout mon cœur pour que les Indiens découvrent l'Évangile, mais je me battrai pour qu'ils aient le droit de vivre autrement et de croire autrement. Bon, une des vraies questions, quand je vois justice supérieure, comment nous, occidentaux, en France et en Suisse, quelle image on a de l'islam?
Ouais.
On a bien souvent la même que celle qu'est colportée. C'est prendre parfois un risque immense dans nos communautés, mais aussi, je ne pense pas qu'on renvoie le message en disant foncièrement, ils sont attachés, ils sont du Christ, mais ils les aiment. Là, on a, à mon avis, un beau témoignage.
Celui qui intègre cette dimension de justice restauratrice sait que tout n'est pas restaurable, mais la considération mutuelle exige que quand il y a des pensées de haine collective, comme le sale arabe que j'ai entendu à Lausanne à plusieurs reprises, dit tout fort dans la rue, dans d'autres temps on a dit sale quelque chose d'autre, demanderait que nous posions un certain nombre de signes. Les plus simples, c'est aller dans une synagogue, dire « Est-ce que vous êtes d'accord de nous recevoir un petit groupe ? Vous nous exposez votre foi. Tout à l'heure, la fois prochaine, nous vous recevons un petit groupe, on prend un repas ensemble, on vous expose notre foi. » Ça demande qu'on déconstruise des images d'hostilité, au moins ça, pour considérer les personnes et pour dire que tous les chrétiens ne sont pas des croisés, ce qu'ils croient. Et ce que nous croyons d'eux aussi. Mais voilà, la justice restauratrice appliquée aujourd'hui pourrait signifier, dans ce cas concret, une démarche pratique comme celle-là. Mais vous risquez d'être critiqué par vos frères et vos sœurs. Il faut bien expliquer ce que vous faites. Hein. Ben écoutez, le temps il est passé. Et puis je crois qu'on va respecter ça. Merci d'être venu.
Merci à toi.
Et puis, merci.